Gilbert Ozon devra faire face à la justice. Un dossier retenu par le DPCP, 13 dossiers qui ont été mis de côté. Accusation, Monique, de viol et d'attentat à la pudeur, événement qui remonte à 1979.
Ce sont en effet les deux chefs qui étaient en vigueur dans le Code criminel canadien à l'époque qui ont été retenus, viol et attentat à la pudeur. La victime était donc mineure au moment des faits reprochés qui auraient été commis à Saint-Sauveur en 1979. Vous aurez compris que l'identité de la victime est maintenue secrète et tant et aussi longtemps, et ça, c'est seulement si elle le décide, de faire la demande au juge de lever l'interdit en cours de procédure. Nous devrons respecter, bien sûr, cette non-publication. Rozon a réagi hier en fin de journée, dit avoir appris le dépôt d'accusation concernant, et je cite, un dossier présumé datant d'il y a près de 40 ans, dit vouloir continuer à se défendre devant la justice et réserver tout commentaire pour cette instance. Pour ce qui est des sentences, ce sont les mêmes qui étaient applicables à l'époque, c'est-à-dire pour viol, c'est une accusation qui était passible de la sentence à vie, donc perpétuité, ce qui n'arrivera sans doute jamais à entendons-nous, là. Et en attentant la pudeur, maximum 5 ans pour une fille. Et lorsque la victime était un garçon, avant là, la réforme du Code criminel en 83, le maximum était de 10 ans. Pour ce qui est de Gilbert Rozon, première apparition à la Cour le 22 janvier prochain.
Très bien. Et je parle maintenant avec la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui est également la présidente du Conseil de la magistrature du Québec. Madame la juge Rondeau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Évidemment, on ne parlera pas du cas Gilbert Rozon, mais je veux parler de façon générale des cas d'agression sexuelle, qui sont des dossiers extrêmement difficiles à apprécier. Et là, quand les causes remontent dans le temps, j'imagine que c'est encore plus difficile pour un juge de pouvoir évaluer la preuve.
En fait, c'est toujours difficile, même pour les infractions alléguées qui remontent dans le temps que pour les plus contemporaines. Parce que ça met toujours en cause des gestes qui sont la plupart du temps survenus dans un contexte d'intimité pour lesquels il n'y a pas de témoin direct autre que la plaignante ou le plaignant et l'accusé. Alors, ça nous confronte souvent à des versions contradictoires et c'est ça qui fait que l'évaluation est difficile. Vous savez, la qualité de mémoire des personnes varie d'une à l'autre. C'est un élément très subjectif et il y a des personnes qui vont avoir des souvenirs très francs d'événements qui remontent dans le temps et d'autres vont avoir plus de difficultés à se rappeler même des événements plus récents. Alors, je vous dirais que c'est toujours difficile, peu importe la période alléguée des infractions.
OK. Qu'est-ce que vous dites aux victimes potentielles qui ont envie de porter plainte et qui craignent l'expérience du tribunal, là, face à l'attitude des avocats de la défense? Il y a plusieurs années, moi, j'ai vu des victimes se faire bardasser devant le juge dans un procès. Je sais que ça a beaucoup changé quand même, mais il y a des craintes de se retrouver face à des avocats qui peuvent être agressifs, pour dire le moins, là.
Mais on comprend les craintes, les réticences, et c'est jamais facile de dénoncer une situation d'abus sexuel, d'abord parce que la victime, dans la plupart des cas, se sente responsable ou coupable ou honte, peu importe, là, il y a toute une gamme d'émotions qui accompagnent ce type de situation-là. Mais quand une victime se présente devant le tribunal, vous l'avez dit, les choses ont énormément évolué. C'est-à-dire qu'on a amélioré, on a modifié les règles de droit qui font en sorte que, par exemple, les questions relativement au passé sexuel antérieur sont limitées, l'accès aux dossiers médicaux sociaux aussi, et j'en passe là, parce qu'on n'a pas le temps de faire l'énumération, mais le droit a évolué grandement depuis, je dirais, le début des années 80 à cet égard-là, et particulièrement quant au fait de ne pas prendre en considération des stéréotypes ou des éléments qui sont des stéréotypes de nature discriminatoire à l'égard des victimes. Alors, les choses ont grandement évolué. Maintenant, ce que ça reste, c'est que ça demeure un débat contradictoire. Ça demeure un débat contradictoire au cours duquel la poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute et que la défense, il ne suffit que de soulever un doute pour obtenir un acquittement. Ça n'a pas changé. Ça fait partie de nos règles fondamentales du processus judiciaire et en ce sens, il est certain que la victime va être soumise à un contre-interrogatoire serré, c'est certain. Mais je dois aussi vous dire que l'accusé aussi est soumis à un contre-interrogatoire serré de la part de la poursuite dans les cas où il choisit de témoigner.
Okay.
Alors, donc, le débat contradictoire fait que c'est difficile, ça peut être parfois difficile, mais je pense que l'évolution des règles de droit font en sorte qu'on peut davantage intervenir. Il y a une chose qui est certaine, c'est que malgré ce débat contradictoire, les juges ont le pouvoir de s'assurer que le contre-interrogatoire respecte la dignité des personnes qui témoignent.
OK, j'aimerais vous donner un exemple, parce que je l'entends souvent. Quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle va, par exemple, rencontrer des enquêteurs, va donner sa version des faits, va être la plus précise possible avec tous les détails dont elle se souvient. Et donc, c'est une déclaration officielle. Elle peut revenir deux semaines après et ajouter des souvenirs en disant « je me suis souvenu de… » Donc, une deuxième déclaration. Vous, comme juge, comment vous faites pour apprécier cette preuve-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui complète son témoignage ou c'est quelqu'un qui devient, à vos yeux, contradictoire?
Non, ça dépend des circonstances. On va évaluer les explications que la personne va donner en fonction de ce qui a été ajouté ou parfois retiré ou précisé dans les déclarations, dans la preuve. Vous savez, l'évaluation de la preuve se fait dans le contexte général de l'ensemble de la preuve qui est faite. Et parfois, la victime peut nous donner une explication qui peut paraître raisonnable et parfois peut donner une explication qui ne nous apparaît pas raisonnable et qui peut soulever un doute sur la fiabilité de son témoignage. Toute évaluation est faite de façon subjective face à la situation, mais objective suivant les règles de droit. Alors, on ne peut pas dire que parce qu'on ne répète pas les mêmes mots dans la même séquence, que systématiquement le témoignage d'une plaignante ou d'un plaignant va être refusé. Alors, c'est une question d'évaluation. C'est une partie extrêmement importante, mais je vous dirais en même temps très stimulante de la fonction de juge que l'évaluation de la preuve et c'est considéré avec l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Parfait. Merci beaucoup, Madame la juge.
Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée. La juge Lucie Rondeau, juge en chef, de la Cour du Québec. Monique, on va juste compléter avec les différentes réactions, entre autres, du monde politique.
Oui, parce que ça continue, on le sait, de susciter beaucoup de réactions, d'inquiétudes encore sur le processus, sur la difficulté. On en parle depuis tout à l'heure, qu'on est victime d'agressions sexuelles, de se faire entendre devant un juge. Je vous laisse entendre la plaignante Patricia Tulane, députée Véronique Yvon et la ministre de la Justice, Sonia Lebel.
Ça nous réconforte. Au moins, une plainte a été retenue. Donc, M. Roson va aller devant la justice et c'est ce qu'on voulait, tout simplement, que justice soit faite.
C'est très difficile de continuer à dire aux victimes, continuez à vous saisir du système de justice, continuez à aller à la police quand on voit qu'il y a autant de plaintes qui sont mises de côté.
La pire chose, c'est le silence. Donc, moi, j'encourage malgré tout à dénoncer. Le système fonctionne.
Le système fonctionne, mais il faudrait nous expliquer pourquoi une des 13 plaignantes qui a été rabrouée par le DPCP cette semaine, qui était mineure au moment des faits reprochés, a porté plainte pour contact sexuel, incitation à des contacts sexuels. Donc, à l'époque, on aurait parlé d'attentat à la pudeur. On a dit à cette plaignante qu'à l'époque, on aurait porté des accusations, mais par voie sommaire, ça veut dire un terme procédural, une gravité moindre avec des peines plus clémentes. Mais on aurait eu donc tout ce qu'il fallait pour procéder à la suite de l'analyse du dossier. Mais comme c'était par voie sommaire, il y avait un délai de prescription à l'époque de 6 mois et ce délai est toujours applicable, donc ce n'était plus possible. Autrement dit, on vous croit, la preuve est là, mais il est trop tard dans votre cas et ce n'est pas dans l'intérêt de la justice. Donc, la plaignante est sortie du palais de justice cette semaine en victime officiellement proclamée, derrière des portes closes, mais pas devant un tribunal. Alors, voilà, ça, c'était un des 13 cas rejetés.
Merci, Monique. 7h56 marque les points chauds de ce matin.